cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 28 septembre 1995.
Pourquoi, si j'aimais mon ami terriblement, ne mourrait-il pas? Oui, l'amour veut la présence de l'ami. Donc si je l'aime intensément, et si mon amour était capable de réaliser tous ses désirs, il ne mourrait pas. Mais mon amour n'est pas substantiel, il est intentionnel. Donc, il ne réalise pas immédiatement tous ses désirs. Quelle est la place différente que le philosophe donne à l'enseignement doctrinal de Jésus, à ses faits et gestes? Surtout quand ils sont apparemment en contradiction avec ce qu'il dit, à la manière dont les saints ont vécu du message évangélique. Oui, là on va traiter cette question-là tout à l'heure, parce qu'il y a, je crois qu'il y en a deux qui se touchent. Comment savoir que Jésus est un homme parfait sur le plan philosophique? Tout ça se tient. Pouvez-vous préciser pourquoi le Christ est une finalité nouvelle au plan éthique et quelle relation le philosophe qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu peut avoir avec le Christ. Vous voyez, c'est très bien. C'est des questions sur le statut scientifique, philosophique d'un philosophe qui est en face de textes historiquement reconnus, en face de quelqu'un qui affirme certaines choses qui le dépassent complètement. C'est intéressant. Le philosophe doit s'intéresser à tout ce qui existe. Or, dans l'histoire, Socrate a existé. Il y a eu des éthiques socratiques. Bien sûr. Aristote prétend être plus proche de Socrate dans son éthique que Platon. Ça a sauté une génération, ce qui arrive souvent. Les petits-fils sont quelquefois beaucoup plus proches de leur grand-père que de leur père. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il y a une ressemblance plus grande, plus facile. Et Aristote le dit lui-même. Or, Aristote n'a pas connu Socrate. Et cependant, il s'inspire de Socrate. Pourquoi pas? Socrate a existé. Il était un homme admirable, étonnant, un converti. Je crois, un converti des sophistes. Un converti qui a découvert l'homme dans sa grandeur et qui a voulu communiquer cela aux jeunes pour qu'ils ne déraillent pas et qui a été témoin de ce qu'il vivait en buvant les ciguës. Il a été témoin jusque dans sa mort de montrer que la vie humaine n'est pas tout et qu'il attendait autre chose. Et c'est pour ça qu'il a pris la ciguë. Parce qu'autrement, si la vie humaine était tout, il aurait voulu échapper, puisque ses amis lui donnaient la possibilité de s'évader. Il n'a pas voulu s'évader. Il a voulu prendre la ciguë pour montrer qu'il obéissait aux lois. Alors, pourquoi Jésus, qui est plus que Socrate, n'intéresserait pas les philosophes dans un temps comme le nôtre, où vraiment il y a une pagaille magnifique au point de vue éthique, il y a une dégringolade complète au point de vue éthique, au point de vue morale humaine. Est-ce qu'on ne peut pas regarder Jésus, quelqu'un qui a existé, historiquement quelqu'un qui a existé, qu'on ne peut pas mettre en doute son existence, qu'on ne peut pas mettre en doute ce qu'on dit de lui, et découvrir à travers l'Évangile ce qu'est cette nouvelle éthique, cette éthique d'un être extraterrestre qui n'est pas uniquement de ce monde et qui se dit d'un autre monde et qui se dit Dieu. Alors, où c'est un fou? On trouve ça dans certains endroits où l'on réunit les pauvres êtres humains qui perdent la raison et qui se disent Dieu. C'est curieux, l'homme a une nostalgie de Dieu. Alors quand il perd la raison et qu'il dit ouvertement ce qu'il pense, il dit qu'il est Dieu. Alors où il est fou? Or, il ne l'est pas. Tout ce qu'il a fait est plein de sagesse. Alors, pourquoi pas essayer de comprendre que ce qu'il dit est peut-être quelque chose qui peut être surhumain, mais qui est souverainement humain. Mais c'est le souverainement humain que regarde le philosophe. Si être chrétien était être anti-chrétien, anti-homme, il n'y aurait pas d'éthique chrétienne au niveau philosophique. Mais si être chrétien implique être parfaitement homme et de l'être d'une manière maxime étalée, je vois pas pourquoi on ne peut pas faire au plan philosophique une éthique chrétienne. Ce n'est pas la théologie morale, parce que la théologie morale part de la foi. C'est au contraire très important de notre temps pour montrer que la plupart des théologiens de théologie morale sont de faux philosophes. C'est, je crois, ça qu'il faudrait montrer aujourd'hui. Parce que la plupart des théologiens de théologie morale ne sont plus vraiment des théologiens. Mais ils partent de l'expérience humaine, ce qui est philosophique. Vous voyez, prendre ce raisonnement qu'on m'a dit l'autre jour, qui avait scandalisé certains qui étaient passés à Jérusalem et qui avaient été à l'école biblique, prendre ce raisonnement où Abraham, c'est un mythe. C'est un très beau mythe. Il faut bien ça, il faut montrer l'origine du peuple d'Israël. Il faut montrer que c'est un très grand bonhomme. Mais on ne sait pas du tout. Aucun témoignage historique. Aucun. Donc s'il n'y a aucun témoignage historique, ce n'est pas vrai. Ceci relèverait d'un raisonnement philosophique. Je comprends très bien que le passé, pour le philosophe, réclame des témoignages historiques. C'est vrai. Mais le croyant, est-ce que sa foi repose sur les témoignages historiques? Ou est-ce que sa foi repose sur la parole de Dieu? Tout est là. conçu dans la foi vivante et contemplative, qui implique un jugement d'existence, et qui fait que Dieu peut nous parler avec un mode symbolique, mais il y a toujours une réalité derrière, puisqu'il y a un jugement d'existence. Au point de vue de la foi, je ne peux pas le dire. Je peux dire que je dis ça en raison de ma foi. Mais quand vous lisez l'Écriture, est-ce que vous la lisez en historien, en critique archéologique, en philosophe ou en chrétien? Même le philosophe n'aurait pas le droit de dire ça. Le philosophe devrait dire l'existence d'Abraham. Pendant 2000 ans, le peuple d'Israël y a cru. Pendant 2000 ans, les chrétiens y ont cru. Ça fait 4000 ans de croyants. Je n'ai pas le droit, d'un coup de baguette, de dire aucun témoignage historique dont ça n'a aucune valeur. Pas du tout. Le témoignage d'une tradition de croyants pour le philosophe représente quelque chose. Plus que, voyez, un document, c'est plus humain. Mais s'il n'y a pas de document, il n'y a pas de document, et puis c'est tout. Mais il y a ce témoignage des hommes. Et donc je dois essayer de comprendre ce que signifie ce témoignage des hommes. Et si ce témoignage des hommes me met en présence de quelqu'un qui est au point de départ d'une nouvelle attitude religieuse, je dois, au plan philosophique, dire il y a beaucoup de chance qu'il y a eu cette réalité. Quand il s'agit d'Abraham, quand il s'agit d'Isaac, quand il s'agit de Jacob, c'est pas seulement des mythes. Quand il s'agit de Jésus, il y a un témoignage historique. Jésus a existé. Et donc, ce témoignage historique me permet de donner à ce témoignage religieux qui m'est donné à travers les évangiles, à travers l'histoire de la vie chrétienne, à travers les actes des apôtres, de témoigner, de montrer qu'il y a quand même une donnée historique. Et je peux, à partir de là, comprendre que cet homme qui a existé, qui a dit certaines choses très extraordinaires, qui par sa mort a donné un témoignage de ce qu'il disait. Il y croyait, du moins, il en vivait d'une façon sincère, que c'était sa vie, et que sa mort témoigne de tout cela. J'ai donc là une possibilité de comprendre que cet homme est vraiment source d'une nouvelle attitude religieuse qui vient confirmer certains aspects éthiques et qui vient dépasser l'éthique humaine, religieuse, dans une éthique nouvelle que j'appelle chrétienne. Alors vous allez me dire, au point de vue critique, tout cela est de l'ordre de l'opinion, puisque ça repose sur des traditions judéo-chrétiennes, puisque tout cela repose sur certains témoignages historiques qui sont relativement pauvres. C'est vrai. On a des témoignages historiques plus importants pour Napoléon que pour Jésus. Donc Napoléon est bien plus important que Jésus. On a des témoignages historiques sur les Césars du temps de Jésus qui sont plus important que ceux sur Jésus. Donc César est plus important. Je dirais non. Si Jésus vient apporter un témoignage de vie intérieure, c'est normal que le témoignage visible, historique et politique soit moindre. Alors, si j'ai la mentalité marxiste, je dirais, je regarde l'importance d'un homme en fonction des changements historiques, politiques qu'il a fait. Et donc César est bien plus important que Jésus. Du reste, Jésus, par ses parents, a obéi à César. Du reste, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est un extraterrestre. Dieu, il n'est pas de ce monde. Et donc, le témoignage historique de César est bien plus important. Je dirais oui. Mais Jésus apporte quelque chose qui n'est plus uniquement de ce monde. Et c'est ce quelque chose qui est propre au Christ. Et donc c'est normal que le peu de témoignage historique soit là. S'il y avait un très grand témoignage historique, ça prouverait que les disciples du Christ n'ont rien compris au Christ. Le chrétien n'a pas comme premier rôle de dire « Ah, je vais témoigner qu'historiquement Jésus existe. » Je crois que ce n'est jamais entré dans la pensée de Pierre, de Jean, de Jacques et de tous les apôtres. Non. Le Christ vient apporter une dimension nouvelle, extra-mondaine, extra-humaine, extra-temporelle, la vie éternelle. C'est ça qui caractérise le message du Christ. Alors, c'est vrai que le regardant de l'extérieur, je demeure dans l'opinion. Mais une opinion au plan pratique suffit à orienter ma vie. Dans l'ordre pratique, l'opinion peut jouer le rôle de principe. Dans l'ordre pratique, c'est le pari de Pascal. Vous savez bien ce que c'est que le pari de Pascal. Dans l'ordre pratique, le pari de Pascal est très intéressant. Dans l'ordre spéculatif, c'est différent. Mais dans l'ordre pratique, si ce que dit le Christ est vrai, il vaut mieux être de ce côté-là que dire non, c'est pas vrai, je n'en sais rien et c'est pas vrai. Alors, je vais fausser toute ma vie en restant dans le doute. Si je suis dans le doute, mettons-nous plutôt du bon côté. C'est ça, Paris de Pascal. Et c'est très normal au point de vue prudentiel. On agit comme ça pour la bourse, prudentiellement. Alors, au point de vue du ciel, on pourrait agir aussi comme ça. Vous voyez, c'était ce qu'avait fait le père de Ratisbonne à l'égard de son frère, qui était un libre penseur du temps de Strasbourg, un homme dur, un juif qui ne croyait plus à rien. Alors son frère lui a dit, je te donne une médaille miraculeuse de la rue du Bac, tu t'en fiches toi? Oh oui, c'est rien du tout, c'est du métal. Eh bien alors, si c'est rien pour toi, par affection pour moi, tu pourrais pas la porter. Puisque tu t'en fiches. Si tu ne veux pas la porter, ça vaut que tu crois qu'il y a quelque chose. Si vraiment tu t'en fiches. riche, tu m'aimes quand même. Oh oui, je t'aime. Alors porte-la. Alors il a accepté de la porter. Au bout de 8 jours, il y a eu l'apparition. Oui, raisonnement prudentiel que de temps en temps on doit dire. Moi je crois très fort à ça. Moi quand je rencontre quelqu'un qui se dit athée et qu'on devient un peu ami, je dis, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Puisque vous n'y croyez pas, ça vous est bien égal. Oh, si tu veux, prie pour moi. Donc tu acceptes que je prie pour toi. Il y a un lien. Celui qui accepte qu'on prie pour lui, je crois, est déjà sauvé. S'il est honnête, vous voyez. Parce que il y a l'hypothèse qu'il accepte. Et c'est un petit truc. L'astuce apostolique qui fait que on ne peut pas demander à quelqu'un qui est de bonne volonté et qui est un scepticisme absolu au plan du religieux. Il n'en peut rien souvent. C'était ce que disait Rostand. Rostand disait, si j'ai tellement de peine à croire, c'est sans doute parce que je suis né dans un milieu scientiste du début du siècle, où on critiquait les curés, et on identifiait la religion et les curés. On identifiait le chrétien et les curés. Alors, j'ai une peine énorme de dépasser ça. Et il ajoutait, je crois que cependant, dans le fond de mon cœur, il y a quelque chose qui aspire à l'existence de Dieu. Je crois que quelqu'un qui dit ça, mais il est sauvé. Étant donné que Dieu regarde la bonne volonté des êtres, il ne pouvait pas plus. Du reste, à cause de son épouse, qui était une catholique merveilleuse, ses enfants étaient baptisés. J'en ai connu qui faisait partie de certains groupes de thomistes à Paris. Et qui croyaient, eux, parce qu'ils avaient été baptisés, parce qu'ils avaient été élevés dans un climat de foi chrétienne qui les aidait. Tandis que lui restait jusqu'à la fin avec un point d'interrogation. Et c'était toujours la même interrogation, si Dieu existe, il est bon. Je vois pas pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Et l'objection la plus classique que saint Thomas lui-même relève, pourquoi certains ont tant de peine de croire en l'existence de Dieu, c'est à cause de l'existence du mal. Et alors c'est étonnant d'entendre dans la bouche d'un savant moderne ce que Thomas d'Aquin avait déjà signalé. Et c'est vrai, c'est l'objection classique. Il faut dénouer ces objections. Il faut les savoir pour comprendre comment, pour certains, ils ne peuvent pas passer d'une éthique humaine à une éthique religieuse et d'une éthique religieuse à une éthique chrétienne. Les trois niveaux de l'éthique. Je crois ça très très important aujourd'hui. Alors, comprenons bien ces trois niveaux et essayons de les saisir. L'éthique humaine, je dirais fondamentale. L'éthique humaine parfaite comme l'éthique humaine, l'éthique chrétienne. Entre 1, 2, 3, entre 1 et 2, il y a un lien de nécessité. L'éthique humaine fondamentale demeure imparfaite. entre l'éthique 1 et 2 et 3, il y a un hiatus. Ici, je suis devant une nécessité philosophique. Ici, je suis devant une opinion philosophique. Mais une opinion qui est l'opinion la plus forte que je puisse avoir au niveau opinion. Je ne peux pas prouver la nécessité pour l'homme d'être chrétien. Il y a le mystère de la foi. Le mystère de la foi entre les deux est un mystère qui dépasse mon intelligence. Même si j'ai la très bonne volonté, la foi est quelque chose qui vient de Dieu. Alors je peux très bien attendre la foi. Être dans l'attitude de celui qui dit c'est très beau, c'est possible, mais je n'y arrive pas. C'est très très important au point de vue éthique, vous voyez. Parce que ça nous aide à comprendre l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qu'on rencontrera, qui se disent athées. Alors, ceux qui se disent athées, c'est de montrer la nécessité qui existe entre 1 et 2. Et ceux qui se disent croyants en Dieu, mais l'éthique chrétienne, non. C'est un mythe. L'humanité s'est forgée ça pour que elle ait une espérance. Pour qu'on croit à un bonheur. Mais c'est mythique. C'est purement imaginatif. Donc, le passage de 2 à 3. C'est pour ça que c'est si important dans le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est très important aussi pour certains aspects, par exemple, l'avortement. Vous comprenez que quand on essaie de montrer les dégâts de l'avortement, ou ce que l'avortement a de destructeur pour l'homme, les raisons sont différentes au niveau 1, au niveau 2 de l'éthique, et au niveau 3. Or, beaucoup de chrétiens qui luttent contre l'avortement confondent les trois niveaux. Les bons catholiques de droite, les cathos, ils confondent. Et quand on leur dit, mais distinguez, ils disent non, non, non. Parce qu'on a l'impression qu'on leur enlève des arguments. On dit, mais c'est pas la même chose. L'avortement est un mal différent pour le chrétien, différent pour l'homme religieux, différent pour l'homme tout court. Et c'est un mal pour les trois. Il faut arriver à discerner comment c'est un mal différent pour les trois. Autrement, les arguments qu'on donne ne portent pas. Et c'est, je crois, là, on voit le fidéisme latent chez des quantités de chrétiens. Je me souviens, c'est à Fribourg, c'était un médecin, j'avais fait un petit cours de théologie, qui a insisté au début, puis au bout de la fin, il m'a dit, ça me trouble dans la foi de voir ce que vous dites au point de vue théologique, que vous mettez à essayer de réfléchir. Moi, j'aime mieux la foi de... Oui, je suis croyant, c'est tout. Je ne sonne pas. Et je lui dis, mais alors quand vous êtes en face d'un incroyant, ben, je lui dis que je suis un croyant. Mais vous pouvez quand même raisonner au point de vue humain et l'aider. Ah oh non, c'est pas ma fonction. Vous voyez, un refus d'être intelligent pour Dieu, un refus d'un accueil vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce qu'on ne peut être que si on respecte son intelligence. Quand vous ne respectez pas l'intelligence de quelqu'un, vous n'êtes pas accueillant. Ça fait partie de sa personne, son raisonnement, sa manière de se structurer. Alors, je reviens un instant, parce que je crois que c'est important de bien saisir ces trois niveaux. L'éthique fondamentalement humaine repose sur l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié. Je crois que tout être humain, arrivé à un certain âge, mettez 18 ans, comprend ce qu'est l'amour d'amitié. Il le comprend ou positivement parce qu'il a de vrais amis, ou négativement parce qu'il a eu des amis qui n'ont pas été fidèles. Encore une expérience négative qui quelquefois porte plus que toutes les expériences positives. Ça a blessé leur cœur. Et si ça a blessé tellement leur cœur, ça prouve qu'il y avait un appétit naturel vers cet amour d'amitié qu'ils ressentaient et qu'ils ont pu vivre. Vous voyez, donc, l'éthique fondamentalement humaine repose sur l'expérience la plus simple de l'amour d'amitié. D'une bonne camaraderie qui est un certain amour d'amitié ne repose pas nécessairement sur une amitié extraordinaire, merveilleuse, qui peut exister, mais qui n'existe pas tout le temps, qui existe même rarement. C'est suffisant qu'il y ait l'expérience de l'amour, et d'un amour qui réclame une réciprocité. Je crois tout être qui aime une personne humaine, je dis bien qui aime une personne humaine, pas uniquement l'amour passionnel. L'amour passionnel ne fonde pas l'éthique. Ça peut fonder des descriptions romantiques extraordinaires. Ça, c'est sûr. Mais ça ne fonde pas l'éthique. Tant que vous n'avez pas l'expérience d'un amour spirituel qui porte sur une personne humaine, l'éthique n'a pas de sens pour vous. Et ça n'a pas de sens pour les autres hommes. Qu'aujourd'hui, l'éthique n'ait pas de sens pour peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas pour combien, 70%, 60%, 50% des citoyens européens, c'est possible. C'est très possible. Je n'en sais rien. C'est difficile de faire une statistique là-dessus. Mais c'est très possible. Tant qu'on n'a pas connu l'amour spirituel, qu'on vit au niveau passionnel, on vit comme un animal intelligent. Il n'y a pas d'expérience propre de l'amour spirituel. Vous voyez, alors, comme la métaphysique ne peut ouvrir ses portes qu'à partir du jugement d'existence, ceci est. L'éthique n'existe qu'à partir d'une réflexion sur un amour spirituel à l'égard d'une personne humaine. Sans très bien savoir ce que c'est qu'une personne humaine, mais quand même, un individu autre que moi, que j'aime au-delà de la personnel de la sexualité. Non, ça ne me fait pas entrer en éthique. Alors, il faut être très net là-dessus. Je me souviens, là, je dis à titre d'expérience, parce que c'est toujours ça qui est intéressant au point de vue éthique. Il y avait sitôt la guerre. Vous savez, il y avait eu le maquis. Il y avait eu quelqu'un qui, dans le maquis, avait été un héros. Je crois vraiment. Il s'était mis tous les grades, général du maquis. Et sa belle-sœur, lui était français, sa belle-sœur française était à Fribourg, mariée. Je veux dire, sa propre sœur était à Fribourg, mariée avec un Suisse respectable. Et quand il passait, il jouait son petit donjouan d'une manière remarquable, parce qu'il avait tout pour ça. Et alors les dégâts après, vous voyez, ça faisait beaucoup parler. Un beau jour, sa sœur est venue me trouver. Son père, je crois que vous êtes le seul à pouvoir lui parler. Il vous aime bien. Il y a un lien avec lui. Il est chrétien et il est catholique, vous le savez bien. Mais c'est plus fort que lui. Ce qu'il a vécu au maquis, ça a été merveilleux. Ça a été très grand. Il a exposé sa vie plus d'une fois pour sauver les autres. Il est d'une générosité étonnante. Mais comme maintenant la guerre est terminée, il n'y a plus d'objectif. Alors tout ça se retourne vers le point de vue passionnel, conquête des cœurs, mais conquête d'une manière artistique et esthétique, puis on les laisse tomber. Vous êtes le seul à pouvoir lui dire que c'est pas bien et que c'est pas digne de lui. Alors, je lui dis, oui, puisque vous me le demandez, j'essaierai. Je sais bien que c'est pas commode. J'ai eu un entretien très serré avec lui. Et j'ai tout de suite abordé le problème. Alors immédiatement, il m'a regardé, mais vous n'avez pas l'expérience de tout ça. Je lui ai dit, c'est évident, j'ai pas cette expérience. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer. Et c'est votre passion. C'est votre instinct lié à votre passion et à votre imagination qui fait ça. Et au fond, c'est votre gloire que vous cherchez, c'est pas l'amour. Et vous trompez dans l'ordre le plus profond humain qui est l'amour. Que vous suscitez de l'admiration et de l'amour pour vous, très bien, mais soyez fidèles. Et ne faites pas ce que vous faites. On a discuté fortement. Si j'avais pas l'expérience d'un amour supérieur, je pourrais pas vous dire ça. Mais aimer Dieu, aimer le Christ, aimer son prochain. Et si je vous vois, c'est parce que je vous aime. Et si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Il faut vous aimer beaucoup pour dire tout ça. Parce que je sais très bien que vous avez de la peine à comprendre. Mais pas discuter en frappant fort pour montrer qu'on savait très bien ce que c'était que l'amour. Si on sait ce que c'est que l'amour divin, on sait ce que c'est que l'amour. Et on peut à ce moment-là montrer qu'un amour passionnel, c'est un amour égoïste. Ce n'est pas un don de soi. Et que l'amour implique l'aspect esthétique, extatique. Il y a une sortie de soi, il y a un don de soi. Libre dans tout amour véritable. Et bien, s'il n'y a pas cette expérience-là, on ne peut pas édifier une éthique où on l'édifie à la manière de Kant. Il faut faire ça. Dans le monde d'aujourd'hui, ça ne tient plus. Ce qui est terrible, c'est que l'éthique chrétienne était restée à ce niveau-là. Tu dois faire ça, c'est ton devoir. C'était l'éthique du devoir. Et la plupart d'entre nous, on a été élevés dans l'éthique du devoir. Tu dois faire ça. Alors si on te croyait, parce que Jésus le demande, parce que l'Église le demande, c'est l'autorité. Il fallait obéir. C'était l'éthique de l'obéissance. l'impératif catégorique de Kant. Alors ça ne tient pas quand, de fait, au point de vue du monde, tout s'écroule. Alors il n'y a plus de structure. Et seul, quand on est seul, l'éthique du devoir ne suffit plus. Quand il y a des murs qui tiennent, des structures qui tiennent, on peut vivre de l'éthique du devoir. On est en face de la faillite complète de l'éthique du devoir. Et je crois que c'est Freud qui a donné le dernier coup violent contre l'éthique du devoir. Contre cette éthique qui repose sur l'autorité. Il faut voir ce que Freud dit sur l'autorité, on sait bien. Alors tout ça dégringole. Et on assiste, nous, à cette espèce d'effondrement, cette éthique du devoir. Il faut qu'on reprenne radicalement sur quoi repose l'éthique. Sur un amour spirituel à l'égard de l'autre. Et cet amour spirituel à l'égard de l'autre n'acquiert toute sa dimension que dans la réciprocité. Donc que dans l'amour d'amitié. C'est évident que l'amour ne repose pas sur la réciprocité. Il repose sur le bien qu'on aime. Un bien personnel, qui est quelque chose d'absolu. Mais la réciprocité permet à cet amour personnel de pouvoir s'épanouir pleinement. Je dis bien s'épanouir. L'amour spirituel se fonde sur mon bien spirituel. Qui est l'ami. Et cela existe au-delà de la réciprocité, puisque c'est grâce à cela que la réciprocité peut exister. Et donc, on doit comprendre aujourd'hui, si on fait une éthique philosophique, que après Kant, il y a Freud, et que Freud s'est répandu d'une manière très très forte, comme une sorte de libération, libération du devoir, pour une liberté de la passion et des instincts, libération des instincts. Ce qui fait qu'on voit aujourd'hui, et c'est classique, je l'ai vu plus d'une fois, des gens mariés depuis 14 ans, 15 ans, ayant des enfants qui ont 13, 14 ans. Et je le dis là parce que je l'ai vu, je l'ai, du moins, je l'ai entendu. L'épouse, le soir, voyant qu'il y avait un petit mot déposé dans sa chambre à coucher, je ne viendrai pas ce soir, t'inquiète pas, je t'en parlerai. Peut-être que même après-demain, je ne viendrai pas. T'inquiète pas, je m'absente. Et la brisure d'un amour qui se fait à cause d'un appel extérieur à un nouvel amour. La brisure que ça peut représenter dans le foyer. Ça prend des modalités très diverses, on le sait bien. Quelquefois, on ne dit rien, puis c'est tout. Là, il y a eu au moins la loyauté de le dire. Et au fond, dans un certain milieu d'hommes aujourd'hui, c'est normal qu'un homme arrivé à 45 ans ou à 40 ans ne se contente plus de son épouse et qu'il ait quelqu'un d'autre. Et que c'est tout à fait normal. Et ça, c'est la mort de l'éthique. Puisque la fidélité n'existe plus. La responsabilité n'existe plus. Pour qu'il y ait fidélité, il faut qu'il y ait responsabilité. Et là, c'est là où on voit que l'amour spirituel n'a pas existé. Et qu'on est resté à un amour passionnel. L'amour passionnel, c'est un amour sensible. Et la passion s'use avec la vie commune. S'il n'y a pas un dépassement de l'amour passionnel vers un amour spirituel. Et c'est cet amour spirituel